Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Vous écoutez le balado de l'IPS, l'émission toute désignée pour en apprendre plus sur les enjeux de santé, le développement du médicament ou démystifier la pharmacologie.
Alors, bonjour tout le monde. Première édition, en fait, de ce balado. Comme vous voyez, on est dans les studios CEFAC à l'Université de Sherbrooke. Je suis en compagnie de Auréliane Michaud ici, qui est étudiante au doctorat pour le professeur Daniel Lafontaine, qui est à la Faculté des sciences. J'ai également avec moi Évelyne Lacasse, qui est aussi étudiante au doctorat avec le professeur François Malouin, qui est aussi à la Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke. Et également notre homme ici pour faire l'équilibre, Renaud Binette, qui est en co-direction. Donc ça veut dire qu'il est en co-direction avec deux professeurs, donc professeur Pierre-Luc Boudreau, qui est à l'IPS, et le professeur François Malouin aussi, qui est à la Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke. Alors, bienvenue à vous trois.
Merci beaucoup.
Une première expérience aussi de radio pour vous, si je ne m'abuse.
Oui, c'est ça.
Alors, je vais, d'ailleurs, moi aussi, ce matin, c'est une première expérience de console. Alors, je vais vous pointer pour que les gens voient vos jolis minois ce matin. Alors, on est ici pour parler de résistance aux antibiotiques. Puis ça, c'est un enjeu de société qu'on connaît peut-être un petit peu moins. On parle beaucoup, par exemple, de la crise des narcotiques. On parle de la COVID, évidemment, depuis 2 ans. Alors, mais les virus ont la vedette, si on veut, depuis 2 ans, mais finalement, les bactéries font le party pareil en arrière.
Donc, faut pas les oublier.
C'est ça, faut pas les oublier. Alors, moi, aujourd'hui, je veux qu'on s'intéresse à ça. Vous travaillez tous les trois sur des projets qui ont un lien avec cet enjeu de santé publique-là, justement, qui est la résistance aux antibiotiques. Puis je commencerai d'emblée par dire que, pour les gens qui nous écoutent, ce qui est important de savoir, c'est que les antibiotiques qu'on a en ce moment, qu'on vous prescrit en clinique, que ce soit le clavulin, que ce soit la pénicilline, à laquelle beaucoup sont allergiques, d'ailleurs, c'est des antibiotiques qui sont vieux de 30 ans, en fait, puis même plus pour certains. Il n'y a pas eu de nouveaux antibiotiques sur le marché. Il faut faire attention parce qu'il y a eu des développements de molécules en laboratoire, mais sur le marché, ça fait 30 ans qu'on n'a pas vu de nouveaux antibiotiques. Alors, voilà ce qui explique un petit peu le phénomène aussi, mais je vais lancer la question à Renaud pour commencer. C'est quoi la résistance aux antibiotiques? Ça mange quoi en hiver?
Oui, c'est ça. c'est vrai qu'on entend un petit peu parler, là. C'est une conversation que, en tout cas, dans notre milieu, on entend très souvent, là. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée d'en reparler, là. Donc, la résistance aux antibiotiques, rapidement, là, c'est assez simple, en fait, là. C'est que plus que les bactéries sont exposées à des antibiotiques, plus qu'ils vont devenir résistantes. C'est-à-dire qu'il va falloir plus d'antibiotiques pour pouvoir les tuer.
OK.
Puis ça, à un moment donné, ça s'accumule, puis ça fait en sorte que des fois, il y a des antibiotiques qui sont tout simplement plus actifs contre les bactéries.
Puis est-ce que, je sais pas, je peux poursuivre avec, merci Renaud, est-ce qu'il y a par exemple, des antibiotiques qui ont plus de problèmes avec cette résistance-là? Est-ce qu'on est plus résistant à certaines gammes ou...
Je peux prendre la parole. En fait, la résistance aux antibiotiques, puis... Avant de parler de quel antibiotique est plus problématique que d'autres, il faut savoir qu'il y a des bactéries qui sont juste intrinsèquement, donc naturellement résistantes à certaines molécules. Donc, même si on les utilise contre elles, ça n'aura jamais d'impact en soi.
Sur toutes les gammes d'antibiotiques qui existent, là?
Non. Dans le fond, par exemple, on a des antibiotiques qu'on a développés pour un certain type de bactéries, alors qu'on va avoir d'autres molécules qui vont être efficaces contre d'autres types de bactéries. Et on va avoir des molécules aussi qu'on va dire à large spectre.
OK.
C'est-à-dire des molécules qui vont être actives contre une grande gamme de bactéries.
Donc ça, c'est quand nos médecins nous disent, par exemple, un antibiotique à large spectre qu'on va nous prescrire, ce serait parce qu'elle pourrait tuer, je ne sais pas moi, 15 sortes de bactéries.
Exact.
Versus un qui est à plus faible spectre.
Ouais. Exact.
Étroit.
On dit étroit.
Étroit. Ouais. OK. Puis ça veut dire qu'il va être vraiment plus ciblé sur une bactérie en particulier. Puis est-ce qu'il va être plus efficace que celui à large spectre au niveau de l'efficacité?
Il y a beaucoup d'aspects dans cette question.
OK.
Ça dépend vraiment des antibiotiques, là. Mais un des côtés positifs quand tu as un antibiotique qui est super étroit, c'est qu'on ne va pas affecter la flore intestinale, qui est composée de bactéries.
Et donc, vous répondez déjà à des questions du public. En répondant à mes questions, c'est génial. Parce que c'est vrai que ça l'affecte, la flore intestinale.
Les antibiotiques à large spectre, oui. Oui, mais c'est ça. Généralement, on préfère utiliser les antibiotiques à large spectre parce que souvent, on n'a pas vraiment le temps de savoir quelles bactéries nous infectent. Donc, on va juste prendre l'antibiotique qui peut à peu près tuer tout.
L'arbre de destruction massive.
Exact.
Donc, l'espèce de bombe nucléaire, mais en version antibiotique, si on veut.
C'est ça.
Puis
c'est
si ça, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de victimes dans les civils.
Les civils étant les bonnes bactéries,
étant les bonnes bactéries.
Ouais, c'est ça.
Et le problème, c'est qu'il y en a des pathogènes, des méchantes bactéries qui sont en train de se cacher derrière les buissons et qui, quand il n'y a plus de civils, ah ben là, ça commence à être...
Ils sortent, puis là, c'est party, là, justement.
Exactement.
Puis peut-être que je peux rebondir là-dessus, Auréliane. Pour le public, c'est quoi une bonne bactérie puis une mauvaise bactérie? Puis c'est quoi les caractéristiques? Ben, on s'imagine que la mauvaise va nous faire du mal, mais je veux dire, outre ça, comment on peut les différencier?
Alors, déjà, on a une énorme variété de bactéries et, par exemple, nous, on est colonisé au niveau de notre corps sur de plein de bactéries, que ce soit au niveau de la peau, des muqueuses et tout ça, c'est vraiment partout. Et on a des fonctions biologiques qu'on ne peut pas faire sans ces bactéries. Par exemple, si on n'avait pas notre flore intestinale, la digestion serait extrêmement compliquée. On ne serait pas capable de récupérer beaucoup de nutriments dans notre alimentation.
Okay.
Donc ce serait vraiment très très problématique. On a besoin de ces bactéries-là pour vivre en fait. Et c'est pour ça qu'avoir une bonne flore intestinale et en bonne santé, c'est très important pour la santé humaine.
Okay.
D'ailleurs, on dit même que c'est le deuxième cerveau, la flore intestinale.
Oui,
exactement. Ouais.
Ouais, ben, y a plusieurs. C'est ça, le deuxième cerveau. Puis je me dis, tu sais, les fameuses annonces de ta-ta-na-na-ta, d'Activia, là, tu sais, on connaît toute la toune. C'est-tu vrai que...
Les probiotiques.
Oui, c'est-tu vrai ça, que ça peut nous aider, mettons, quand on prend un antibiotique, justement, à large spectre, qui est une arme de destruction massive, de prendre des probiotiques en parallèle? Est-ce que ça peut donner un coup de main pour éviter la destruction, des civils?
Ben, les probiotiques sont supposés aider, en fait, au maintien des bonnes bactéries. Et du coup, essayer de barrer la route aux mauvaises, parce qu'il y a beaucoup de bactéries comme ça qu'on va appeler opportunistes et qui ne sont pas capables de se développer, de causer des infections chez nous si on est en bonne santé. Mais si on a une antibiothérapie avec justement un antibiotique à large spectre, on a fait de la place. Et là, effectivement, c'est le party.
C'est le party qui est pogné là. Puis ça, on le disait beaucoup aussi, tu sais, avant la COVID, on n'utilisait pas le Purel. Moi, j'avais entendu, écoutez, c'est des légendes urbaines, moi, je fais partie du grand public, tout ça. Tu sais qu'on n'utilisait pas le Purel parce que justement, ça élimine 99,9% des germes. Puis le 0,01% qui reste, c'est justement les toffes qui se cachent en arrière des buissons. Puis ça peut causer d'autres problèmes. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça?
99,9% en termes de bactéries, c'est pas tant que ça.
Ah non!
Parce que t'en as des tonnes. Il va quand même t'en rester beaucoup. Okay. Donc, tu détruiras pas ta flore si tu te laves les mains une fois au Purel. Okay. Ça va se refaire assez facilement. Par contre, l'action mécanique est aussi très importante dans ça. Puis là, je veux pas trop m'avancer parce que j'ai pas les chiffres qu'est-ce qui...
La santé du Canada.
La santé.
Ouais. OK, parfait. Puis, donc là, si je reviens, parce que moi, je suis déjà passé du coq à l'âne, m'excuse d'avance. La résistance aux antibiotiques, en fait, c'est le fait que ça va nous prendre des doses plus massives d'un même antibiotique pour avoir le même effet qu'au départ. Donc, c'est-à-dire que quand cette gamme-là ou ces antibiotiques-là sont sortis, ça nous prenait une dose X d'antibiotiques, alors que là, maintenant, ça va nous prendre une dose Y, Z, lettre grecque, je ne sais pas trop, là, des grosses doses pour arriver au même résultat. Puis c'est que là, j'imagine qu'il y a tout un concept aussi de balance des inconvénients, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'effets secondaires aux antibiotiques. Mm-hmm. Donc, si tu donnes des doses plus élevées, j'imagine que les effets secondaires sont plus élevés aussi en même temps. Est-ce que c'est le cas?
Ben si je peux rebondir là-dessus, là, en fait, c'est connu depuis vraiment longtemps là, que la résistance aux antibiotiques va arriver puis que ça va être un problème. Même Alexander Fleming, qui est...
Pénicilline?
Oui, exact, mm-hmm. qui est le gars qui a découvert la pénicilline. Il l'a dit au tout début, il a dit, ça, c'est vraiment une bonne molécule pour traiter les infections, sauf qu'il faut faire attention parce qu'il peut y avoir de la résistance. On savait déjà que les bactéries sont capables de s'adapter très, 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 très rapidement, là, vu qu'ils prolifèrent vraiment vite. Là. Fait qu'on savait qu'il allait avoir des problèmes dans le futur. Là.
Mais là, je fais juste poser la question comme ça, puis peut-être que ça va être niaiseux comme question, mais je veux dire, les médecins, moi, quand j'étais jeune, là, mm-hmm. on avait la guédille au nez, puis ils nous donnaient des antibiotiques, ils nous garochaient ça, là, je sais pas c'est pourquoi, là, mais si on savait ça depuis 1920, quelque, là, comment ça se fait que c'était comme ça?
Il y a déjà le problème que... C'est de plus en plus rapide, en fait, le moment où on a une molécule sur le marché et où la résistance apparaît. Donc, c'était plus facile dans le temps d'aller prescrire des antibiotiques parce que c'était plus efficace. Mm-hmm. Et il y a aussi une pression au niveau du médecin. Si vous allez voir le médecin, puis il vous dit « Oh, ben, c'est viral. Vous avez juste à attendre que ça passe. » Les gens, ils n'aiment pas ça. Ils aiment repartir avec une prescription, avec un médicament.
Même si c'est inutile.
Mm-hmm. Même si c'est inutile. Et donc, il y a quand même une pression pour que le médecin, même si ce n'est pas forcément utile, il vous prescrive quelque chose.
Ouais. Puis j'aimerais juste aussi clarifier que les antibiotiques ne peuvent pas tuer les virus. Fait que c'est pour
plus.
Ça que...
C'est pour ça que... Oui, mais c'est de clarifier quand même.
Ouais. C'est pour ça que ben, ce n'est pas forcément nécessaire et qui peut vous dire ben, voilà, il faut attendre que ça passe. Mm-hmm. Si vous avez un rhume, on peut traiter les symptômes, mais le virus en tant que tel...
Il n'y a rien à faire.
Non, il n'y a rien à faire.
Mais là, on remarque un virage dans les dernières années. Puis moi, je le remarque chez mon médecin. Mon médecin va me prescrire, par exemple, un antibiotique. Il va me dire, essaie le sinus rince avant. Essaie de te mettre la face dans un plat chaud avec de l'eau chaude. Ou tu sais, essaie d'aller dehors. Essaie de te moucher avant de prendre l'antibiotique. Puis si tu fais de la fièvre puis tes symptômes ne passent pas, prends l'antibiotique. Donc, cette espèce de virage-là au niveau des médecins, ça s'est passé quand, ça? Est-ce que c'est récent, à votre connaissance?
Ça, je ne sais pas. Mais je suis contente de l'entendre.
Ouais.
Moi, je peux parler pour la France, parce que je suis française. Et c'est plus dans les années 2000, on a eu des campagnes de sensibilisation pour justement dire que les antibiotiques, ce n'était pas automatique. Et ça a mis vraiment les gens ont pris conscience que, oui, il ne fallait pas toujours en demander, que ce n'était pas forcément nécessaire. Et on a vu une vraie diminution du nombre de prescriptions qui étaient inutiles et qui, en plus, coûtent de l'argent au système de santé alors que ce n'est pas nécessaire. Et en plus... augmente le risque de développement de résistance de la part des bactéries.
OK, mais c'est quand même intéressant. Puis j'avais une question du public aussi, parce que, puis je me sens concernée aussi parce que mon neveu, puis des enfants ont eu récemment des injections d'antibiotiques dans les petites cuisses, là, tu sais, tout ça. Puis je me demandais, est-ce que les générations qui viennent... ils traînent cette résistance-là? Est-ce qu'ils sont plus à risque d'être résistants aux antibiotiques que nous l'étions, par exemple, quand on est né? Est-ce que c'est quelque chose qui augmente dans les générations?
OK. Faut savoir que ça, c'est pas... ça, la résistance, c'est pas l'humain qui devient résistant, c'est la bactérie.
OK.
Puis la bactérie ne se transmet pas nécessairement quand tu nais. Après ça, est-ce que ça peut être affecté par si tu l'as sur la peau? Mais ça serait un peu un coup de chance ou un malheur qui arrive. C'est pas quelque chose que tu peux transmettre.
Okay. Comme par exemple l'immunité contre la COVID que les femmes transmettent en mettant.
Ouais, mais ça c'est autre ça. Chose. Ouais,
ouais c'est complètement autre chose.
C'est complètement autre chose. Ça vient vraiment de ton immunité.
Ok.
À toi. Donc quelle réponse t'as bâti contre le virus de la COVID par exemple? Alors qu'une bactérie. C'est vraiment la bactérie en soi et non pas la réponse que tu vas montrer contre elle.
Puis est-ce qu'on développe une immunité contre les bactéries ou non?
Certaines, oui. Puis d'autres, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficilement, je te dirais. Puis même non, je te dirais.
OK.
Ou cette immunité-là va disparaître après un certain temps, ou la bactérie va tout simplement avoir des outils qui vont lui permettre de contourner les défenses immunitaires. Ouais. Les virus aussi peuvent
garder vos
ça.
Vaccins un jour, ça aide.
Mais c'est
ouais,
pour ça,
c'est pas
pour
facile ça aussi au Québec.
C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de vaccins contre les bactéries. C'est pour ça qu'on utilise souvent les antibiotiques, là, qui sont nos armes.
On n'est pas en prophylaxie. Prophylaxie, là, c'est un mot que j'ai appris et que j'aime bien flasher. Mais en voulant dire en prévention, on est plus en traitement au niveau de la bactérie. Là,
puis... Absolument. Puis si je peux revenir là-dessus, la prévention, souvent on va voir ça plus en animal, en agriculture, production
animale.
Là, tu m'as perdu. mais fais juste m'expliquer. Dans le fond, tu parles, par exemple...
La prophylaxie,
dans le sens qu'ils vont... Ah oui, ben, c'est par exemple les vaches.
Exact.
On en entend beaucoup parler, mettons, pour le lait, qu'il y a de l'antibiotique dans le lait.
Non.
Non, mais c'est bon. Moi, je trouve ça bien. Je vous dis plein de mythes, puis vous les défaites. C'est parfait, ça sert à ça. C'est...
Ouais. Okay. Par exemple, si tu veux faire du fromage, okay,
ouais,
tu as besoin de bactéries pour faire du fromage. Si tu as un antibiotique
j'aime
dans ton lait...
J'aime mieux l'oublier, parce que j'aime vraiment ça, le fromage. Quand je pense aux bactéries, ça m'écœure. Mais
non,
oui,
mais c'est bon, les bactéries.
Fermentation lactique, c'est les bactéries.
Exact. Si tu as des traces d'antibiotiques dans ton lait, tu ne pourras pas faire de fromage. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas d'antibiotiques dans un... Ou s'il y en a, ça va être tellement minime que ça
ne
pourra pas affecter.
C'est
parce
qu'il dit
sans antibiotiques, mettons la viande ou ci pis ça.
Ouais.
Ça, c'est...
Il n'y en a pas.
C'est un peu différent. Ça, c'est élevé sans antibiotiques. Ouais. Parce que C'est ça. Dans le fond, comme les animaux comme nous, là, ils peuvent être atteints d'infections bactériennes. Fait qu'on essaie de les guérir aussi.
OK.
Puis, chez les humains, on fait un peu attention. On donne des antibiotiques quand on en a besoin. Mais chez le bétail, c'est pas rare. Ça arrive là, qu'on fait juste donner pas mal tout le temps des antibiotiques. On
élève... gazou, là.
Ouais, c'est ça. On élève le bétail à l'antibiotique.
On les beurre de polysporine, tu sais. Non, mais peut-être pas à ce point-là, mais tu sais, on donne des antibiotiques comme avant qu'il y ait un problème.
C'est ça. Parce que c'est presque plus facile, en fait, là, pour le producteur de juste donner des antibiotiques. Puis ensuite, ben, il voit pas le problème.
OK.
Mais c'est ça. Là, de plus en plus, là, en fait, on se tourne à utiliser l'antibiotique quand on en a besoin chez le bétail. Parce que, justement, ben, si on donne tout le temps des antibiotiques chez le bétail, ça crée un environnement qui est vraiment propice pour faire sortir des bactéries résistantes.
Absolument. Puis il y a aussi le fait... Bien, là, je vous sors des mythes, là, un après l'autre. Là. Moi, je suis une sorteuse de mythes. Mais ça se retrouve dans l'eau, ça, je pense, hein? Les antibiotiques. Est-ce que ça
ouais.
se peut?
Ouais.
Auréliane, peut-être tu peux nous dire de quelle façon ça se passe? Comment on finit par boire des antibiotiques, mettons?
Par exemple, dans les eaux d'évacuation des hôpitaux ou... Quoi d'autre?
Carrément.
Les eaux usées,
donc les hôpitaux, les entreprises pharmaceutiques qui produisent eux-mêmes les antibiotiques. Il y a des résidus de poudre et tout ça se retrouve. C'est supposément traité et puis tout. Là. Ils font tout en sorte pour que ça ne se fasse pas, mais reste que ça arrive de temps en temps. Et ça permet de.
Justement d'avoir des...
C'est un risque.
C'est un risque. Peut-être, est-ce que ça peut contribuer à la résistance dans la société d'avoir ces brèches-là?
Oui, absolument.
Mais on s'entend que c'est quand même très contrôlé.
Ouais. Oui, okay. C'est pas faire peur à tout le monde.
Non, vous n'êtes pas en train de boire des antibiotiques mais c'est trop du
ça.
Robinet. Là.
Non seulement c'est contrôlé, mais c'est aussi, tu sais, il faut mettre en perspective, là, c'est aussi extrêmement dilué.
Oui. C'est de l'homéopathie quasiment rendue là.
Oui, vraiment,
ça, absolument.
Ouais. OK.
Mais pour une bactérie, par exemple, il y a quand même des réservoirs qui vont être un peu plus concentrés que d'autres. Puis on sait que certains antibiotiques, la résistance peut se transmettre quand on est en condition... petite concentration d'antibiotiques, juste le petit stress sur une bactérie va faire en sorte que, faut que je transmette mes gènes, faut que je transmette ma résistance, puis on va voir une propagation accélérée, par exemple.
Puis tu parles de transmission. Moi, je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec Renaud au coin d'un corridor de l'IPS. C'était justement de parler que les bactéries, c'est comme une communauté, c'est comme un village, hein, si on veut. Puis ça jase, puis c'est des potineuses sur un temps rare, dans le sens qu'il se passe des informations. Tu viens de parler de gènes, mais je pense que... est-ce que vous pourriez m'expliquer comment ça se passe, justement, ces conversations-là bactériennes? Là? Comment ils se parlent entre elles? Qu'est-ce qu'ils se transmettent comme information? Parce que ça, je pense que ça fait partie de la problématique aussi. Là.
OK. Ce qu'il faut savoir, oui, c'est que ce qu'on appelle la conversation bactérienne ou le crowdsensing en d'autres mots, c'est quelque chose qui se passe toujours. Okay? Les bactéries vont sentir la population autour par la sécrétion de certaines molécules. Puis ils vont être capables de savoir on est à peu près combien, comment la communauté va, puis tout ça.
Okay.
Puis ça, c'est peu importe qu'il y ait un antibiotique ou non. Ça, c'est un phénomène qui se passe toujours. Quand tu as un antibiotique, c'est vraiment l'aspect du stress. C'est vraiment de dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon environnement.
OK.
Et donc, je ressens ce stress-là. Et il y a certains éléments qui vont commencer à bouger. Puis, on va vouloir survivre et donc transmettre le tout.
OK, donc, c'est comme si, par exemple, si je fais une analogie, là, parce que moi, j'aime bien ça faire ça, là. Par exemple, on est en Ukraine, OK?
Ouais.
Puis là, les Russes, ils ont dit qu'ils nous donnaient la paix pour Noël. Puis là, nous autres, on est là. Puis là, tout à coup, boum, il y a une bombe qui tombe quelque part. Puis là, la communauté fait comme, oh, là, ils sont stressés par ça. Fait que là, ils vont se mettre à prendre les armes, eux autres aussi, pour aller riposter, si on veut. C'est-tu ça ou c'est plus comme...
C'est un peu plus comme si tu allais chercher des armures.
Oui, c'est ça. Tu vas te protéger.
Comme tu te protèges contre...
la bombe.
Contre la bombe, fait que la bombe a comme plus d'effet.
Mais mettons que la bombe est tombée dans une ville X.
Oui.
Bien là, ça va se communiquer.
Exactement.
La ville Y disait, hey, y a une bombe qui est tombée chez nous. Là. Il y en a une couple qui ont péri là-dedans. Fait que attention, allez vous chercher votre armure. Tu sais, puis,
c'est ça.
Et ça serait un peu... sont intelligentes, donc. Et puis, c'est-tu plus dangereux? Moi, je vous pose une question. Point de vue danger pour la santé publique. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est plus dangereux entre une bactérie ou un virus?
Non. On peut pas? Il y a tellement de cas différents que c'est difficile de répondre à cette question.
On peut pas, OK. Mais comment dire?
C'est... Tout peut te tuer.
Tout peut vous tuer. Tenez-vous là pour dire, chers auditeurs.
Ou tout peut t'aider aussi.
Ouais, c'est
Mais c'est que contrairement aux bactéries, il n'y a pas de bons virus. Fait que, j'imagine que... Y a-t-il des bons virus? Ah, peut-être.
C'est une bonne question, ça.
Ça se peut. Des phages?
Ouais. Exact.
On peut pas.
On commence déjà à parler justement des phages. Comme pour très... comme alternative aux antibiotiques. Donc, des phages, c'est des virus qui sont spécialisés pour infecter les bactéries.
Ouais, mais j'avais vu quelque chose passer, un documentaire justement, que c'est un gars qui est allé en Égypte, je pense qu'il a pris, il a attrapé une bactérie vraiment résistante en se baignant, ou je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Puis en revenant ici, il était quasiment en train de mourir, septicémie, ses organes commençaient à shutter down, tout ça. Fait que là, ils ont dit, ben là, on va l'essayer. Puis ils ont pris des phages, puis c'est ça qui a sauvé la vie. Ouais. Parce qu'il n'y avait aucun antibiotique sur le marché qui était capable de le soigner, finalement. Donc,
c'est ça que ça fait, l'antibiorésistance. La résistance aux antibiotiques, ça crée des situations un peu comme ça. Là.
Ben oui, c'est ça. Tu t'en vas en Égypte, puis le pouf, non. c'est un voyage gratuit. Puis là, ben, j'aurais le goût qu'on s'attarde un peu plus, parce que j'ai trois invités, puis vous êtes trois, je crois, en tout cas, trois approches de cette problématique-là, parce qu'il n'y a pas juste une voie pour régler ce problème-là, il y en a plusieurs. Ouais. Donc, peut-être que je commencerai du côté d'Auréliane. Je sais que Daniel Lafontaine, le professeur Daniel Lafontaine, a publié récemment, vous travaillez, vous, dans votre laboratoire sur le ribo quelque chose. Là. Fait que je te laisse nous expliquer ça pour qu'on comprenne à la maison aussi, là, qu'est-ce que vous faites finalement. Là.
Ah, ouais. Nous, on travaille sur les ribos régulateurs, donc on appelle ça aussi ribo switch en anglais. Donc peut-être que j'aime utiliser les deux. Et en fait, c'est comme un espèce d'interrupteur devant certains gènes de la bactérie. Et en fait, pour enclencher ces interrupteurs, on a besoin d'une petite molécule. Et en fait, c'est ça. Et ces petits interrupteurs-là, ils sont devant des gènes qui sont potentiellement importants pour la bactérie. Et si jamais on les éteint ou on les allume, dépendamment du gène derrière, ça peut être problématique pour la virulence ou pour la croissance de la bactérie. Donc nous, ce qu'on essaye de voir, c'est quels gènes liés à ces interrupteurs sont importants pour aller éventuellement les cibler, pour faire une petite molécule en fait, qui ressemble à la molécule naturelle. Ce serait notre antibiotique. Et comme ça, on peut aller piger sur le bouton et éteindre la bactérie comme on veut. Là.
Est-ce que vous faites, est-ce que vous faites de la collaboration avec la pharmacogénétique de votre côté pour aller repérer ces gènes-là ou c'est vraiment pas...
Non, on est beaucoup plus en amont que ça.
Okay.
On est plus sur étudier ces interrupteurs, ces riboswitch, pour voir déjà comment ils fonctionnent, pour être sûr de savoir comment les utiliser pour faire la petite molécule. Mais nous, on ne va pas faire la molécule en question. On va vraiment étudier l'interrupteur et voir comment ça fonctionne pour justement après passer le relais à éventuellement des chimistes qui pourront faire des molécules qu'on pourra peut-être tester, que ce soit... on va faire des collaborations après pour faire par exemple sur les souris ou autre.
Okay.
Mais nous, on va... on est les premiers maillons en fait de la chaîne.
Donc vous voulez repérer en fait ces switches là, si on veut dire ces interrupteurs là, parce que là, de ce que je comprends là, parce que moi je fais de la reformulation comme je suis psychologue là, mais dans le fond ces switches là, ce serait comme les messages qui se transmettent de résistance, c'est ça? Dans le fond, ça serait de l'information que vous shottez dans?
En fait, ça va être vraiment un gène en tant que tel. Donc, ça peut après faire une enzyme, ça peut faire une protéine, ça peut faire... Il y a plusieurs possibilités. Là, on a actuellement, je crois, on est 52 classes d'interrupteurs différents. Là, donc, on a quand même un vaste choix de... Après, elles ne sont pas toutes dans la même bactérie. Là, c'est complet. Puis, ce qui est intéressant en plus, c'est que ces riboswitch-là, ça n'existe pas chez les mammifères. On n'en a jamais trouvé encore. Quelques-uns chez des plantes, mais pour le moment, c'est que chez les bactéries et quelques autres organismes. Donc, donner quelque chose qui cible ça à un humain, a priori, c'est assez sécuritaire.
OK. Fait que ça veut dire, par exemple, que là, moi, j'essaie de comprendre, ça veut dire qu'on l'empêche de grandir, finalement, on l'empêche de se développer en éteignant cette switch-là.
Exact.
C'est comme si on nuit à son développement, parce que tantôt, Renaud, tu disais que ça se prolifère vite.
Mm-hmm.
Mais là, on éteint la prolifération.
C'est ça.
On éteindrait.
Ou la virulence, ou il y a plusieurs choses qu'on peut éteindre ou allumer, si jamais c'est une molécule qui est délétère pour la bactérie. On lui en fait produire des tonnes.
Okay.
Elle ne va pas aimer ça, parce que soit ça va l'épuiser, parce qu'elle n'en avait pas besoin, puis toute son énergie passe là-dedans, ou ça peut être simplement toxique directement pour elle et la tuer.
Mm-hmm. Directement.
Okay.
Dans l'œuf, si on veut.
Si je peux embarquer un peu, là, dans le fond, Auréliane a dit qu'elle travaillait rapidement là, pour déterminer une cible dans la bactérie. Puis ensuite, le travail est délégué
à vous.
Oui, c'est ça, à notre laboratoire, entre autres, là, où ce que nous, on va essayer de développer des molécules pour atteindre ces cibles-là. Puis ces molécules-là, au final, ça va être des antibiotiques. Parce que ces molécules-là sont capables d'atteindre les cibles qui font en sorte que la bactérie meurt.
Antibiotique, si on y va dans la construction du mot étymologique, c'est antibactérie, finalement. Donc,
c'est contre la vie, en fait.
c'est directement ça.
Contre la vie. Okay.
Dans le langage populaire, on va appliquer ça aux bactéries.
Aux bactéries, oui. Ouais.
OK. Parce que biotique, c'est... Ah ben oui.
C'est la vie.
Ben oui, c'est vrai. Hein? Ouais. Si on y va du côté... Ça doit être latin, j'imagine. Tout est latin en français, mais c'est ça. Fait que ça doit être contre la vie, finalement.
Ouais.
Oh mon Dieu, c'est intéressant. Puis vous, c'est ça que vous touchez dans votre laboratoire. Vous, ouais. C'est ce que vous aimeriez faire. Puis comme on voit, il va y avoir éventuellement des collaborations avec les chimistes.
Mais on
c'est
a déjà ça. Eu Toujours. Entre, justement, le,
exact.
Nos
ouais,
labos.
Ouais, ouais.
Notamment sur une molécule PC1 qui a aidé... pour les infections à staphylocoque aureus chez la vache,
okay.
Sur les mamies de bovines. Donc, on sait que c'est possible, que ça fonctionne. Et en plus, pour le moment, on n'a pas vu de résistance se développer par rapport à ça.
Donc, c'est vraiment des bonnes nouvelles.
En tout cas, il y a encore beaucoup de travail à faire.
Ouais,
oui,
ça.
Oui.
C'est justement là-dessus qu'Evelyne et moi, on travaille, entre autres. Là, donc, de notre côté, de mon côté de laboratoire, on design des nouvelles molécules qui ont des activités différentes ou on enlève un peu les côtés négatifs. Puis ensuite, on les envoie à Evelyne et son équipe qui les testent au final directement sur les bactéries.
OK, donc là, on a carrément le continuum en face de moi. Vous n'êtes pas dans le bon ordre, là, mais ouais, je veux dire, ici, on a les inspecteurs. Toi, tu es en biologie, ouais. Auréliane? Oui, c'est ça. Donc, en biologie. Ensuite, on transfère en chimie
exact.
Médicinale.
Chimie médicinale.
Pour designer...
Un paquet de molécules.
Paquet de molécules.
On envoie.
Toi, tu testes en chimie.
En bio.
En bio aussi. OK, ouais. Fait que deux bio.
Ouais, c'est ça, deux bio.
Donc, on voit bien ici l'interdisciplinarité. Puis ça, c'est super exactement. Intéressant parce que les projets, vous n'avez pas le choix de collaborer.
Non.
Parce que vous n'avez pas parfois l'expertise qu'il faut pour la deuxième étape. Puis tu sais, on voit qu'il y a des allers-retours finalement. Donc, on est en bio, ouais. On va en chimie médicinale, on revient en bio.
Surtout que quelqu'un qui soit capable de faire toute la chaîne à lui tout seul, très, très, très diplômé.
Ouais, c'est vraiment
75 ans. C'est ça, puis il est très, très, très diplômé, 4 doctorats. Parfait. Puis si on se promène, justement, là, on en a parlé un petit peu, mais si on va avec Evelyne, du côté, vous êtes dans l'étape finale, si on veut, ouais. du test. Puis il y a peut-être d'autres choses aussi. C'est quoi ton projet, toi, du côté de François?
Moi, c'est un peu ce que Renaud et Auréliane ont parlé. J'ai un autre aspect aussi qui est encore plus important pour moi, c'est la revalorisation de molécules. C'est-à-dire qu'on a des antibiotiques qui étaient plus efficaces,
okay.
que si on modifie, ils le redeviennent. Donc...
Wow! OK. Attends, si on modifie, puis dans quel sens on modifierait?
Dans le fond, un exemple, la pénicilline. On sait que la pénicilline est vraiment très...
Allergène?
Ben
aussi. Ça vient du pain moisi, hein, ça. Mais en tout cas, excusez, c'est parce que j'ai écouté Outlander. Puis dans Outlander, okay. Claire a fait moisir du pain pour essayer de...
Ben, ça vient de moisissure. Okay. Il y a énormément d'antibiotiques qui proviennent de champignons, de fongés.
Là, c'est drôle parce qu'on a le vidéo, fait qu'on voit le regard des scientifiques qui sont comme, de quoi qu'elle parle? Claire Fraser? Oui, non, OK. Mais en tout cas, c'est parce que...
Ouais, j'ai vu aussi.
Elle essaie, elle met des cloches, puis elle essaie de trouver du moisi. Elle le trouve, finalement.
Ouais.
Là, ça fait casser, ça se règne. En tout cas, c'est pas drôle, cette histoire-là. Ouais. Mais continue.
oui, si on parle justement de pénicilline et tout ça. Et mettons, on sait qu'une bactérie va être résistante à la pénicilline.
OK.
Ben, ce qu'on peut faire, c'est venir rajouter un groupement qui fait qu'elle ne reconnaît plus comme elle reconnaissait l'antibiotique. Okay. Puis ça le camoufle. Donc, ça le cache, mais l'antibiotique peut avoir son effet quand même, malgré ce camouflage.
OK.
Ouais.
Donc, ça veut dire que...
Donc, pour avoir de la résistance contre ça, c'est comme une autre panoplie de gènes qu'il va falloir qu'il y ait à cœur ou qu'il va prendre beaucoup plus de temps. Peut-être qu'ils vont être de plus en plus efficaces puis tout ça. Donc, c'est vraiment une idée, c'est d'avoir... On sait qu'on a des molécules qui fonctionnent, qui ont toujours fonctionné. Est-ce qu'on est capable de les remettre, de les faire refonctionner, en fait?
OK. Donc, dans le fond, on parlait de buissons tantôt avec Auréliane. Vous créez comme des buissons pour qu'ils se camouflent. si on veut. Vous créez comme les buissons puis les
antibiotiques.
Les antibiotiques.
C'est presque on leur fait les tenues de camouflage, en fait.
Oui, c'est ça. Fait que vous feriez l'armure ou les... Non, pas l'armure. Là, je mélange.
Non, c'est ça.
Oui, c'est ça, parce que là, dans le fond...
C'est comme si on
là,
faisait une bombe qui arrive par en arrière puis qu'il n'y avait pas vu.
Ah, c'est bon, ça. Ouais. Ah, j'aime ça. On reste dans la... C'est ça. Donc, c'est comme une bombe silencieuse, finalement.
Exact.
Ouais, que finalement, on verrait pas arriver.
Qui va s'infiltrer tranquillement.
Qui va se camoufler tranquillement.
Le truc avec les antibiotiques, c'est que c'est vraiment une course à l'armement entre les bactéries et nous. Parce que nous, on fait une nouvelle molécule, hop, elle déploie une résistance, hop, on refait une nouvelle molécule. Donc, c'est
son talent,
ça, ça finit jamais. Mais en même temps, c'est l'évolution. Elle, ce qu'elle voit, c'est veut survivre. Donc, il faut bien qu'elle fasse quelque chose.
Comme dirait, comment qu'elle s'appelle, Donna Summer, I will survive, un petit peu.
Quelque chose comme ça. L'avantage qu'ils ont sur nous, parce que l'évolution, c'est aléatoire, hein, donc c'est pas comme si elle décidait que, oh, il faut que je fasse une mutation pour résister à ça. Mais comme ça se multiplie tellement vite, que les mutations, elles arrivent rapidement et ça prend pas forcément très longtemps avant qu'il y en a une par hasard qui arrive à faire quelque chose d'efficace contre notre antibiotique.
En effet, ouais. Donc, parfait, mais merci. C'est déjà, on a deux beaux projets ici. On voit qu'il y a c'est deux façons différentes d'aborder la problématique. Puis là, du côté des designers, là, les designers de molécules, qu'est-ce qu'on fait du côté de Pierre-Luc, puis en collaboration quand même avec François aussi Malouin, qu'est-ce qu'on fait?
Ben, juste rapidement, en général, en chimie, c'est nous qui vont fabriquer les nouvelles générations d'antibiotiques. Là, Evelyne disait qu'on prend la pénicilline puis on ajoute une partie de molécule. Ben, c'est les chimistes qui vont faire cette réaction-là. Donc, les chimistes, en général, c'est ce qu'ils font. Ils font des nouvelles molécules avec une certaine logique pour essayer de contourner les résistances ou bien diminuer la toxicité, des choses comme ça. Puis c'est ça. Dans mon cas, je travaille sur deux projets dans mon laboratoire, dont justement un sur les riborégulateurs, où ce qu'on essaye un paquet de nouvelles molécules qui peuvent rentrer dans le riborégulateur pour éteindre la bactérie, plus ou moins. Là.
OK.
Puis un autre projet, c'est... on a découvert il y a plusieurs années, là, en 2015, un antibiotique qui est vraiment efficace contre certaines bactéries, mais qui est complètement inefficace contre d'autres bactéries. Puis on essaye, en fait, de le rendre efficace contre toutes les bactéries.
Donc, un large spectre.
Exactement, ouais. C'est ça.
OK. Puis, là, on parlait de large spectre, de spectre étroit au début. Oui. Qu'est-ce qu'on vise en tant que scientifique? Est-ce qu'on préfère des larges spectres ou des spectres étroits quand on développe des nouvelles molécules, par exemple?
Je peux te répondre.
Oui. Ben oui, vas-y.
OK. Un spectre large, c'est vraiment, en ce moment, le problème, je pense, un des gros problèmes,
oui.
C'est qu'on n'a pas de méthode diagnostique efficace pour savoir qu'est-ce qui infecte quelqu'un. OK? Donc, ce qui fait en sorte que...
C'est la bactérie?
Oui.
Ben, non, c'est pas laquelle.
Non, c'est pas laquelle.
OK. OK, je te suis.
Fait que quelqu'un arrive aux urgences et fait une septicémie, par exemple, est super malade. C'est une question d'heure. Tu peux pas te mettre à dire, oh, je vais faire les tests, on va voir quelle bactérie, puis là, je vais prescrire, OK, un spectre étroit. Des fois, c'est dans l'urgence.
Je t'arrête. Spectre 3, c'est quoi ça?
Spectre, un antibiotique spectre étroit, donc...
Oh, étroit,
mettons,
OK.
Étroit, excusez, okay. C'est moi qui...
qui est très spécialisée.
Très spécialisée, par exemple, on dit, ah oui, c'est Staphylococcus aureus, on a un super bon antibiotique contre lui, on va donner ça.
Comme par exemple, quand on sait que c'est une pneumonie, on va prescrire du clavulin qui goûte vraiment pas bon.
Mais tu vois, le clavulin, c'est aussi quand même large.
C'est large quand même aussi?
Oui.
OK.
Oui, parce que le clavulin, c'est une pénicilline, c'est un antibiotique qu'on va ajouter... Oui, qu'on va ajouter un inhibiteur de bêta-lactamase, justement parce qu'on sait qu'il y a une résistance.
Là, tu viens de me faire un
attends,
le clavulin, cerveau,
je suis plus certaine. Non, c'est clavulanate
dans le sens que ça veut pas dire que t'es infecté d'une maladie, que c'est exactement cette bactérie-là.
Fait qu'on le sait pas.
Une pneumonie, c'est une infection des poumons.
Ouais.
Là, on sait pas c'est quelle bactérie. Juste donner un antibiotique à large spectre.
Ce qui nous manquerait, finalement, c'est une autre personne ici qui s'occupe des outils diagnostiques.
Oui, exact.
Okay.
L'invitation est lancée.
Ouais, c'est ça.
En fait.
OK.
C'est ça.
On sait le faire, c'est juste que c'est trop lent.
OK.
Mais
ça coûte de l'argent aussi.
Mais il y a de l'effort quand même.
Oui, il y a beaucoup d'effort. Parce qu'on se rend compte que c'est vraiment...
important.
C'est un goulot d'étranglement. Il y a tout avance des deux bords, mais le fait qu'on ne soit pas capable de diagnostiquer assez rapidement, ça fait qu'on est un peu bloqué.
OK, donc ce serait vraiment nécessaire pour l'avancement de cette recherche-là, puis de régler ces problématiques-là, que quelqu'un s'intéresse.
Ben, il y en a qui s'intéressent à
ça. Mais qu'on trouve peut-être une façon plus rapide, moins coûteuse de diagnostiquer ça, puis d'être capable de cibler vraiment la bonne bactérie.
Une médecine un peu plus personnalisée.
Oui.
Donc, dans cette optique-là, si je fais des liens dans ma tête, c'est qu'on aurait éventuellement que des antibiotiques à spectre étroit, dans le sens qu'on saurait
ou
qu'on
s'en coincerait. On utiliserait moins de spectre large, mettons.
C'est ça. Ouais. On préférerait spectre étroit, spectre large dans la mesure du possible si on est capable de diagnostiquer à quelle bactérie. Je n'essaierai pas de nommer tantôt, là, Zélius, je ne sais pas trop quoi. Puis je me demandais justement, là, on arrive en fin déjà d'entrevue. D'un point de vue sociétal, mettons, comment les gens peuvent contribuer? Tu sais, comment moi, mettons, jeune fille. Naïve et c'est tout ça qui va à la pharmacie, je sais pas. Comment moi je peux contribuer en tant que citoyenne à ne pas aggraver la problématique? À part rester enfermé chez nous, là, mettons, s'il y a d'autres solutions.
Il y a plein de solutions qui sont possibles. La plus fréquente qu'on va nommer, c'est de bien suivre les prescriptions des antibiotiques. Là. C'est-à-dire pas en prendre plus que ce qui est prescrit, puis pas en prendre moins que ce qui est prescrit. Parce que
pas des bonbons, là.
Exact. Dans les deux cas, ça peut causer de la résistance aux antibiotiques là, chez les humains. Ça, c'est un des gros aspects, ouais. Là, j'ai l'impression. Là.
Suivre le 10 jours. C'est parce qu'il y en a qui se disent « Oh, je vais mieux. » Fait qu'ils arrêtent de le prendre.
Oui, mais la bactérie qui était juste maganée va reprendre du poil de la bête et puis on pensait l'avoir tuée, puis en fait, non.
C'est
ça. Ça peut potentiellement être pire.
Exactement.
Mais c'est comme ça.
C'est comme ça que ça se passe.
C'est comme ça que ça se passe.
Celle qui va avoir réussi à survivre, ben, ça va être la résistante.
La résistante.
Donc, c'est elle qui va continuer à se reproduire. Puis là, ben, si c'était la résistante, ben là, t'es devenu résistant.
L'espèce de personnage de film d'horreur qui est comme couché, tu penses qu'il est mort, finalement.
Ouais, c'est ça. On était sur le point de l'achever. On est parti avant.
Ouais. Mais finalement, il reprend toute sa vie. Donc, là, toi, t'as plus la bonne âme contre ce bonhomme-là.
Puis, par exemple, le polysporin, là. Ouais. Tu sais, les fameux double action, all dress, je sais pas trop quoi, là, tu sais, qu'on peut acheter sur les tablettes, ça, c'est-tu comme à éviter? Parce qu'il y a des gens, moi, que je connais, sont comme, je me suis fait bobo, ils mettent du polysporin tout de suite, tu sais, avant même que ce soit infecté. Est-ce que ça, c'est grave? Est-ce que, au niveau topique.
Il faut aussi comprendre que la résistance se fait comme directement sur certains antibiotiques, dans le sens que la bactérie ne va pas devenir résistante à tous les antibiotiques parce que tu y as mis un antibiotique.
OK.
Puis dans le polysporin, il y a certains antibiotiques. Fait que c'est sûr que si on continue d'utiliser le polysporin à chaque fois que tu as une petite coupure, ben peut-être que les bactéries qui sont sur ta peau en ce moment-là, ils vont devenir résistants à l'antibiotique que dans le polysporin. Mm-hmm. Mais ils ne seront pas nécessairement résistants à d'autres antibiotiques.
Que ce soit vraiment de façon orale ou c'est ça.
Ça peut
parce devenir.
Parce que le polysporin, ouais. c'est pas des antibiotiques qu'on peut prendre oralement. Puis c'est ça. C'est un antibiotique qui est vraiment, vraiment fort, mais qu'on ne peut pas prendre oralement. Fait qu'on l'utilise justement de
mais cette
façon.
Mais c'est fort quand même. Donc c'est ça. Faut pas prendre ça comme la mayonnaise avec des frites. Là, je veux dire, dans le sens que c'est vraiment un médicament. Là. Fait qu'il faut que les gens fassent attention quand même.
Surtout qu'après, il ne servira plus à rien.
Si les bactéries deviennent résistantes, effectivement.
Mais là, on a déjà des triples actions.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'un très bon antibiotique, c'est du savon. Là. Donc,
du savon.
Si tu laves une petite coupure, tu la laves avec du savon, puis tu frottes un petit peu, tu laisses couler l'eau.
Ça tue les bactéries.
Ça dépend, je veux dire. Je ne veux pas dire aux gens d'arrêter de prendre du polysporin non plus. Là.
Non, mais ça devrait être le premier réflexe avant de mettre de la crème partout.
Oui.
C'est ça. De l'alcool à friction ou du savon.
Oui, puis le savon, justement, là, je vous rebondis là-dessus. Là. Le savon, est-ce que vous conseillez antibactérien ou normal?
Non, c'est ça.
Vas-y, qu'est-ce que tu dis?
Vas-y, Renaud avait l'air.
Ça dépend aussi de la situation. Là. Je veux dire. Il y a probablement des bonnes raisons pour utiliser des savons antibactériens, mais pour monsieur, madame, tout le monde là, qui veut juste se laver les mains, je pense pas que ça soit 100% nécessaire.
Là. Mais c'est ça, le savon comme en soi a une activité. Puis me semble que quand on parle d'antibiotiques, ça c'est à vérifier, là, mais je pense qu'il rajoute genre du triclosan ou quelque chose dedans. Puis ça, le triclosan, ben, si tu mets un antibiotique, ça a été montré que ça peut propager justement la résistance. Parce que c'est encore une fois, c'est une question de stress. On vient stresser encore plus, puis des fois, il y a des molécules comme ça qui sont super bonnes pour envoyer le message de dire « OK, on transmet. »
Ouais, non,
On transmet.
Fait que les gens qui lavent toutes leurs poignées de porte au RTL, puis qui
Mais ça, c'est... Tu sais, un RTL normal sans antimicrobien va agir probablement aussi bien pour ta maison que quelque chose qui en a, là, sincèrement.
OK.
Mais ça, en même temps, je pourrais me faire... Mais je suis sceptique.
Non, mais on s'entend que tout ce qui se dit aujourd'hui, c'est à titre indicatif aussi. On jase, là, tu sais. Faut pas prendre tout pour du cash. Puis d'ailleurs, dans ces balados-là, moi, ce que je dis toujours aux auditeurs, c'est même des scientifiques. On prend rien, faut vérifier nos choses. Ouais. C'est ça qu'on aimerait instaurer à l'IPS dans la société. Une de nos valeurs, c'est l'engagement envers le grand public, tout ça. On veut instaurer cette curiosité-là d'aller s'informer aussi, d'aller vers des bonnes sources, tout ça.
Exact.
Pas que vous en êtes pas, là. Mais dans le sens que je pense que c'est important toujours de se questionner. Puis ça, t'apportes un bon point quand tu dis que t'as vérifié tout ça, c'est parce que c'est vrai. C'est, on n'est pas personne expert dans tout. Puis il faut s'assurer d'aller valider ce qu'on entend.
Puis tu sais, quand tu parles de polysporin, moi, je peux te dire comment les antibiotiques dans le polysporin fonctionnent. Okay. Mais je peux peut-être pas te dire exactement... c'est quoi les impacts d'utiliser du polysporin à long terme?
C'est ça. Ouais. Exactement. Ce serait plus peut-être un pharmacien qui pourrait dire ça? Ou...
Oui, ou juste la littérature scientifique, des gens qui ont pris le temps de dire, bon, ben, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un prend régulièrement du polysporin?
Moi, je m'intéresse à ça pendant 5 ans.
Genre, ça prend du temps.
Oui, c'est ça, parce que c'est ça qu'on comprend quand on est étudiant supérieur à l'université, c'est que tu t'intéresses à quelque chose qui est gros comme une tête d'épingle pendant des années.
Ouais.
Donc, tu deviens expert dans cette tête d'épingle-là, mais c'est tellement large. On parlait de large spectre, mais la problématique... Non, mais c'est vrai que la problématique de résistance aux antibiotiques, ça a aussi un large spectre.
Ouais.
Puis, pour terminer, j'aimerais ça savoir, justement... premièrement, qu'est-ce qui va se passer si on ne fait rien? Mais là, j'imagine que si on va tous mourir.
Peut-être pas, mais ça va... il va y avoir plus de morts. En tout cas, tous les OMS et autres, ils prévoient qu'on va avoir beaucoup plus de décès à cause d'infections résistantes aux antibiotiques, même des infections qu'actuellement, on est capable de soigner. Mettons, en 2050, on ne sera peut-être plus capable.
Mm-hmm. Les gens vont recommencer à mourir de pneumonie, par exemple?
Potentiellement.
D'otite. Hey, ça, c'est fou, hein, cet hiver. On dirait que les gens...
Là, je ne veux pas être trop alarmiste. Ben, en fait, je ne veux pas être trop alarmiste, mais on le voit déjà. Là.
Oui, ben, les jeunes enfants, là, cet hiver, les otites étaient... C'est pour ça qu'il y a eu des injections, moi, dans ma famille.
Absolument, puis j'en ai entendu beaucoup, d'histoires d'otite. Les infections urinaires, c'en est une autre qui est comme très banale, mais que...
C'est pas banal quand tu l'as, ça fait mal.
Ouais. C'est triste de dire que dans quelques décennies, ce sera potentiellement une cause non négligeable de décès dans la population.
Mais comme ça l'a été au Moyen Âge, si je veux dire, c'est...
potentiellement, on va revenir à une ère pré-antibiotique.
Exact.
Ouais. C'est inquiétant. C'est très inquiétant. Parce qu'on a beaucoup, c'est ça comme on disait au début, on découvre de moins en moins de nouvelles molécules, donc on a de moins en moins d'armes. Et on est en train de...
Puis les bactéries sont de mieux en mieux contre nos armes.
Ouais. Je voudrais pas dire qu'on est en train de perdre la guerre, mais...
Mais pas loin. Mais
là, certaines batailles.
Mais ne découragez pas.
On fait tout ce qu'on peut, mais c'est vrai que si on peut avoir un petit peu d'aide des gens qui...
Mais il y a tellement de belles choses qui se font en ce moment, puis des belles stratégies que maintenant on est capable de faire, que moi je trouve ça juste... quand même encourageant. Là, je veux pas me décourager. Là.
C'est ça. C'est sûr que c'est un peu stressant, mais c'est vraiment excitant, en tout cas, de travailler là-dedans. Là. Ça, c'est sûr.
Ben, c'est le fun de voir au moins qu'il y a des gens, justement, de la relève qui s'intéressent à ça, puis qui veulent vraiment dédier peut-être leur carrière à ce sujet-là, parce que c'est un enjeu très important. Puis comme Auréliane le dit, ben, déjà, on peut faire notre part, nous, en tant que personne lambda, en suivant nos prescriptions, en essayant d'éviter aussi de prendre des antibiotiques, d'essayer de se soigner autrement. Comme je disais tantôt, ma médecin, tu sais, les sinus reins, d'autres façons où est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de soigner sans avoir recours à ça.
Oui.
De laisser notre corps faire sa job un peu aussi. Oui. Tu sais, des fois, ça vaut pas la peine de nécessairement aller direct ces antibiotiques. Là.
Ouais. Non.
Puis il y a un autre peut-être aspect que j'ajouterais là, qui est particulièrement important, mais on n'entend pas beaucoup parler, là, mais c'est justement l'utilisation des antibiotiques dans l'élevage de bétail, etc., là, dans tout ce qui est produits animaux. Là. Donc, favoriser les compagnies qui n'utilisent pas les antibiotiques, c'est sûr que c'est un bon point là, pour combattre la résistance. Là. Ou bien des compagnies qui utilisent des antibiotiques qui sont super à spectre étroit. Là.
Absolument.
En tout cas, utiliser juste au besoin, pas de manière générale.
Oui, c'est ça.
Mais c'est un bon message à lancer à la population. J'espère qu'il va être entendu. D'après moi, oui, on avait quand même beaucoup de personnes qui étaient intéressées à cette discussion-là qu'on a eue aujourd'hui. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous remercier parce qu'on est déjà au bout de l'entrevue. On aurait pu parler des heures de ce sujet-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Merci pour votre temps. Je vous souhaite aussi bien que vos recherches avancent. Je nous souhaite que vos recherches avancent parce que...
Oui,
là...
non, il y a de l'espoir. Faut pas partir sur une note défaitiste, mais...
Non, non.
On travaille fort.
C'est bon.
Bien, merci d'avoir cassé la glace aussi. On sait que c'est notre première fois en studio ici à CEFAC, donc merci d'avoir été volontaire. C'est le fun d'avoir des... On voit là, notre valeur d'engagement et de connexion ce matin en studio avec vous. L'IPS, ça fait partie de nos valeurs. Vous êtes à la faculté des sciences, mais...
Ouais, souvent l'IPS.
Mais souvent l'IPS. C'est c'est ça? Oui, c'est vrai, je l'ai croisé quelques fois, mais c'est ça, nous, une de nos valeurs primordiales, c'est l'engagement, puis on veut s'assurer justement de... Ben, d'éduquer, j'aime pas le mot, mais d'éduquer le public un peu plus pour qu'il puisse être plus conscient. On a vu avec la COVID, d'ailleurs, que les gens, ben, c'est ça, des fois, c'est pas pour mal faire, mais ils ont pas les bonnes informations. Ouais. Ou, comme tantôt, je vous ai sorti 3-4 mythes. Même moi, je suis quelqu'un d'avisé.
Puis on l'est tous.
C'est ultra difficile, là. Je comprends.
Absolument, absolument.
Je veux dire, on prend des articles scientifiques, puis des fois, on est même nouveau, comme le lire et le comprendre, parce que c'est... C'est pas, on comprend pas tout ce qu'ils ont fait non plus. Là. Donc, ça prend du temps juste comprendre un article des fois. Donc, je peux imaginer à quel point la vulgarisation, la communication est nécessaire. Ouais.
Absolument.
C'est pas tout monsieur, madame, tout le monde qui a le temps d'aller sur PubMed ou autre et de faire ça. Lire 10 publications pour savoir ce qu'il en est.
Ils connaissent pas PubMed. Des gens partant, là.
Non, mais on n'a pas forcément le temps de faire ça sur tous les sujets. Donc, c'est normal qu'on on se fie parfois à ce qu'on peut entendre dans des médias plus...
généraux.
Voilà.
Absolument. Ben, je vous remercie beaucoup. Puis,
merci pour l'invitation.
Ben, ça fait plaisir. Puis bonne continuité à vous trois. On va peut-être avoir la chance de se revoir s'il y a des développements dans vos études respectives. On va peut-être pouvoir justement vous réentendre en entrevue. J'espère que vous avez aimé votre expérience. Oui. Puis, bonne fin de journée à tout le monde qui était en onde avec nous. Puis on se retrouve probablement le mois prochain avec un autre sujet tout aussi intéressant.
Super. Merci.
Merci beaucoup.